Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci à tous de votre présence ce soir. Je salue le public, je salue la presse. Nous allons donc commencer cette séance du conseil municipal du 7 novembre 2019. Il est 20h30. Nous avons un certain nombre de pouvoirs. Le pouvoir de Madame Chapeau à Monsieur Petit. Le pouvoir de Madame Rasselet, donc à moi-même, excusez-moi. Le pouvoir de Monsieur Bernard à Monsieur Constant. Le pouvoir de Madame Perrin à Monsieur Rossetti. Dont sont absents Monsieur Ribas, qui nous rejoindra certainement en cours de séance, et Monsieur Campon. Je propose à Madame Trévidi d'assurer le secrétariat de cette séance. Et Madame Reynard est aussi absente, donc excusez. Et Pierre Collin ne participera pas. Ah, j'ai fait une erreur. Pardon? Très bien. Donc, je modifie concernant les pouvoirs. Madame Rasselet a donné pouvoir à Monsieur Rouyer et Monsieur Collin, donc à moi-même. Bien, je vous propose. Donc, de faire l'approbation du compte rendu de la séance du 18 septembre 2019, qui a été affiché et que vous avez reçu pour ce qui concerne les élus le 25 septembre. Y a-t-il des remarques particulières? Très bien, je le mets donc aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie pour cette unanimité. Point numéro 1. Reprise en régie directe de la maison de services au public, gérée par l'association MJC et transfert du personnel. Je demanderai à Monsieur Pouillaud de prendre cette première délibération. Merci.
Monsieur le maire rappelle. Attendez. Autant l'habitude de ce cas. Monsieur le maire rappelle aux conseillers municipaux que la Maison des jeunes et de la culture, MJC, est l'association porteuse et gestionnaire de la Maison des services au public, MSAP de Bédoin. Afin de renforcer l'accès aux services de proximité, l'État s'est engagé dans le développement d'espaces mutualisés de services au public. Institué par l'article 100 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, les MSAP ont vocation à délivrer une offre de proximité et de qualité à l'attention de tous les publics. De l'information transversale de premier niveau à l'accompagnement de l'usager sur les démarches spécifiques, les MSAP articulent présence humaine et outils numériques. Elles aident les territoires à anticiper les transformations, à s'adapter aux nouveaux besoins des usagers et à éviter le recul des services. Dans cette perspective, la MJC et ses partenaires, Pôle emploi, la CARSAT, la CPAM, la MSA et la commune de Bédoin ont convenu d'organiser un espace mutualisé de services au public et signé une convention le 19 avril 2017. Par avenant du 9 avril 2018, la direction départementale des finances publiques de Vaucluse a rejoint les partenaires de la MSAP de Bédoin. Un point numérique CAF a par ailleurs été déployé dans la MSAP. Les organismes signataires participent au fonctionnement de la MSAP en matière de services numériques et sur le plan financier, et s'engage à former le personnel sur l'offre de services. Le gestionnaire accueille, informe et oriente le public. Il accompagne les usagers dans l'utilisation des services en ligne des opérateurs, favorise la mise en relation et identifie les situations individuelles nécessitant à porter à connaissance des opérateurs partenaires. Il s'engage à ouvrir la MSAP au moins 24 heures par semaine et au moins répartis sur 3 jours. Le lieu doit comporter un point d'accueil du public, un point d'attente assise et un espace confidentiel. Un équipement informatique et un point multimédia doivent être mis à disposition des usagers. Ces 12 derniers mois, ce sont plus de 600 actes qui ont été réalisés par la MSAP de Bédoin. Le président de la République a décidé le 25 avril 2019 de la mise en place d'un réseau France Service devant permettre aux concitoyens de procéder aux principales démarches administratives du quotidien au plus près du terrain. Ce réseau poursuit 3 objectifs: une plus grande accessibilité au travers d'accueil physique polyvalent ou de services publics itinérants. Une plus grande simplicité des démarches avec le regroupement en un même lieu des services de l'État, des opérateurs et des collectivités territoriales. Une qualité de service substantiellement renforcée, formation d'agents polyvalents, panier de services homogène. Ainsi, les MSAP présentant les garanties de qualité et d'accueil pourront être labellisées Maison France Service dès le 1er janvier 2020, selon des critères définis dans une circulaire du Premier ministre en date du 1er juillet 2019 et détaillés dans la Charte nationale d'engagement France Service et le bouquet de services. Pour Bédouin, il conviendra notamment de mobiliser et de former un second agent polyvalent et de rechercher d'autres opérateurs partenaires et de déployer de nouveaux services. Au titre des années 2019 et suivantes, l'État s'engage à forfaitiser le financement de chaque structure à hauteur de 30 000 euros. Ce montant est réparti entre le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire et le Fonds interopérateur. Monsieur le maire explique que les MSAP, n'obtenant pas le label Maison France Service, perdront les financements d'ici la fin de l'année 2021. Par courrier du 21 juin 2019, le trésorier de la MJC alertait Monsieur le préfet de Vaucluse et la commune de Bédouin sur la problématique de financement de la MSAP, recherche de subventions, paiement tardif des participations FIO et FNDAT, générant des problèmes de trésorerie, pouvant conduire l'association à renoncer au portage de la structure. En date du 2 octobre, faisant suite au conseil d'administration du 26 septembre, la collégiale fait part de sa décision de ne pas porter le projet de Maison France Service et de n'assurer la gestion de la MSAP que jusqu'à la fin de l'année 2019. Considérant l'intérêt pour la commune de Bédouin de maintenir et de développer ce service public de proximité, Monsieur le maire propose de municipaliser la Maison de France Service au public et de solliciter l'homologation de la structure en tant que Maison France Service. La commune exercerait cette activité en régie directe. Cette dernière, présentant les caractéristiques d'un service public administratif, le transfert du personnel affecté à la MSAP relève des dispositions de l'article L1224-3 du Code du travail. La commune sera donc tenue de proposer aux salariés un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de son contrat antérieur, notamment concernant la rémunération et la durée, sauf si une disposition légale ou sur les conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique concernée en dispose autrement. Une délibération spécifique sera proposée s'agissant de la création de cet emploi permanent. La commune mettant à disposition de la MJC le local hébergeant la MSAP et prenant en charge les frais d'entretien de réparation, ainsi que la fourniture du matériel, aucune autre charge que salariale ne sera transférée à la commune. Vu le code général des collectivités territoriales, vu l'avis favorable du comité technique en date du 6 novembre 2019, il est demandé au conseil municipal d'approuver le principe de municipalisation de la maison de service au public, de donner un avis favorable à la reprise en régie directe de ce service à compter du 1er janvier 2020 et à la création de l'emploi permanent découlant de plein droit de cette reprise d'activité, conformément à la délibération portant sur la modification du tableau des effectifs à suivre, de l'autoriser ou tout adjoint faisant fonction à signer toutes les pièces relatives à la mise en œuvre de cette reprise d'activité et de ce transfert de personnel, d'imputer les dépenses et les recettes afférentes sur le budget principal de la commune.
Très bien, merci Vincent. Y a-t-il des questions particulières mais sur cette évolution, hein, on ne peut pas le dire autrement. Bien, écoutez, je le mets donc aux voix. Des oppositions, des abstentions. Merci pour cette unanimité.
Point numéro 2, adhésion au service commun de l'innovation numérique du territoire de la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Venaissin. Madame Blanc, s'il vous plaît.
Alors, Alors, monsieur le maire explique que la COV est dotée d'un nouveau service mutualisé avec la commune de Carpentras, dénommé Direction de l'innovation numérique du territoire, comprenant 4 volets. Chaque commune aura la faculté de demander librement à bénéficier de chacun de ses services par une adhésion aux services communs à la carte. La cartographie et le SIG, toutes les communes de la COV bénéficient aujourd'hui de ce service au moyen d'une convention de mise à disposition à laquelle va se substituer une adhésion au service commun pour ce volet. Ainsi, les conventions actuellement en cours se poursuivront jusqu'au 31 décembre 2019. Pour renouveler le service, une délibération du conseil municipal est requise. Le délégué de la protection des données, DPO, dans le cadre du règlement général sur la protection des données, RGPD, s'agissant d'un domaine nouveau, la mission commencera par une phase d'état des lieux qui devrait s'étaler sur toute la première année 2020. Chaque commune aura la possibilité de n'adhérer dans un premier temps que pour cette phase d'état des lieux, puis décider par la suite de pérenniser ou pas cette adhésion à ce volet de services communs. L'open data, la mise en ligne des informations publiques, à laquelle ne sont soumises de manière obligatoire que les communes de plus de 3500 habitants, mais qui peut être mise à disposition des communes de taille inférieure si elles le souhaitent. Toutes les activités liées au numérique, les systèmes d'information, l'informatique, les télécommunications, à l'exception des 3 volets précédemment décrits, la structuration de cette activité principale étant plus complexe, le service commun ne concernera au départ que la COV et la commune de Carpentras au 1er juillet 2019, la commune de Sarian qui effectue actuellement les investissements de mise à niveau de ses équipements rejoindra ce volet du service au 1er janvier 2020. Au-delà, les autres communes pourront, si elles le souhaitent, demander leur adhésion pour l'informatique et les télécommunications pour une prise d'effet à compter du 1er janvier 2021. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L5211-4-2, qui dispose que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de leurs communes membres peuvent se doter de services communs en dehors des compétences transférées, chargées de l'exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles. Vu l'avis des comités techniques respectifs de la communauté d'agglomération et de la commune de Carpentras, vu la délibération du conseil communautaire de la COV du 24 juin 2019, numéro 69-19 et ses annexes, portant création d'un service commun de l'innovation numérique du territoire, vu le modèle de convention d'adhésion au service commun de l'innovation numérique du territoire proposé par la COV à ses communes membres, considérant que les activités et missions du service commun de l'innovation numérique du territoire sont ventilées en 4 volets et qu'il appartient à chaque commune adhérente au service commun de retenir celui ou ceux de son choix. Volet 1, innovation numérique, hors activité des volets 2, 3 et 4. Volet 2, cartographie, système d'information géographique. Volet 3, DPO, protection des données personnelles. Volet 4, open data, mise à disposition de données auprès du public. Considérant en particulier que l'adhésion au volet 2 est prévue pour une durée indéterminée et qu'il peut y être mis fin dans les conditions prévues par la Convention. Considérant également que l'adhésion au volet 3 est prévue pour une durée initiale d'un an, pour une phase de diagnostic devant prendre fin au 31 décembre 2020 et que la commune pourra confirmer et poursuivre son adhésion pour une durée indéterminée dans les conditions prévues par la Convention. Vu le projet de convention d'adhésion de la commune au service commun de l'innovation numérique du territoire, annexé à la présente délibération, vu le budget de la commune, il est demandé au conseil municipal d'adhérer au service commun de l'innovation numérique du territoire, d'approuver la convention à passer avec la COV portant adhésion de la commune au service commun pour la cartographie et le système d'information géographique volet 2, la protection des données personnelles volet 3, d'autoriser monsieur le maire à signaler ladite convention, à signer ladite convention et tout acte à cet effet.
Merci madame Blanc, des questions particulières là-dessus?
Oui, simplement, ce jour, les prestations, on les couvrait en interne. On faisait comment? On avait un prestataire extérieur. Mais en fait,
technique. La cartographie et surtout la cartographie, parce que les protections, on ne faisait pas, c'est ça?
Non, la protection n'existait pas. D'ailleurs, on était un peu défaillant là-dessus. Par contre, pour tout ce qui est le système, nous avions notre propre système, mais pour lequel on continue d'ailleurs à opérer en ce moment. Et donc, on était adhérents, mais qui en fait pose souci dans la mesure où on était les seuls à l'avoir. Et donc, on adhère au service de la COV qui font justement un certain nombre de missions que nous ne faisions pas.
La cartographie.
Déjà,
oui, voilà. Oui, c'est tout. Hein.
Et la cartographie, ça revenait à combien annuellement?
Je ne sais plus, 600, 675.
900 euros?
C'est ça? 675.
Non, mais.
Oui.
Oui, effectivement, ça a été dit dans la préparation, mais bon, c'est pas tout le monde qui avait l'information. Donc, effectivement, c'est dans les 900 à 1000 euros. Quoi. Et là, en fait, effectivement, on se retrouve à 7 700 euros. Le premier, sur la cartographie, je vois que c'est lié à la longueur de la voirie, c'est ça?
Le principe de beaucoup de dotations de l'intercommunalité qu'il faut intervenir, le nombre de kilomètres de voirie, le nombre d'habitants et le nombre d'hectares. Mais parfois ça nous avantage quand c'est pour les dotations d'aide aux voiries, par exemple, mais par contre, là, c'est pas terrible.
D'accord. Pour le volet 3, donc, c'est la population. En fait, Carpentras, qui au départ avait un service, donc là, il mutualise avec la COV, mais on n'est pas dans le 50-50, parce que je vois que du coup, Carpentras, sur le volet 2, vu le critère, ben, finalement, il ne paye que 18 000 sur les 72 000. Et pareil, donc, sur le volet, il est à 40% sur le volet 3. En fait, nous, on passe d'une prestation de 1 000 euros, en gros, à 7 700 euros, et on n'a que le volet 3 en plus, finalement.
Oui, effectivement, on avait demandé, on a obtenu des explications qui nous ont été fournies, mais vous pourrez vous rapprocher du secrétariat général pour avoir le détail de ce courrier que je n'ai pas là. Et donc, ce qui nous a été dit, c'est que jusqu'à maintenant, mais déjà, on était pratiquement sur la fourniture d'un service gratuit, et que dorénavant, ce service s'étoffant et intégrant en particulier la DPO, donc on retombait dans une proportion a priori qui était plus équitable. Mais effectivement, j'ai été surpris aussi de l'augmentation de ce coût.
Parce qu'à la limite, la DPO...
Au départ, à la création, le service fonctionnait avec des subventions. Quand elles ont été stoppées, le service a fonctionné avec du matériel humain. Et ils nous l'ont fait payer au coût réel.
Oui, mais bon, voilà, simplement, c'est qu'on passe de 2000 à 6000, et bon, la DPO, à la limite, 6006, mais on ne l'avait pas, donc OK. Et en plus, je dirais que c'est des frais fixes, quoi, même pas la prestation. Quoi. Si une année, on bosse beaucoup avec, ben, à la limite, on amortit la prestation. L'année où on bosse peu avec, ben, on paye 6000. Quoi. Mais bon, c'est comme ça. C'est tout.
Et merci de ces contributions. Je le soumets aux voix. Des oppositions, des abstentions. Merci pour cette unanimité. Point numéro 3. Compétence pour les eaux pluviales urbaines. Convention de gestion avec la communauté d'agglomération Mantoue-Contavenessin. Monsieur Rouillère, s'il vous plaît.
Monsieur le maire rappelle qu'à compter du 1er janvier 2020, la compétence gestion des eaux de pluie, des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1, donc à savoir la collecte, le transport, le stockage, le traitement des eaux de pluie, est transférée à titre obligatoire à la communauté d'agglomération Ventoux-Contat-Venessin par ses communes membres. Donc ça, c'est la loi du 3 août 2018. La gestion des eaux pluviales urbaines présente des difficultés d'identification de périmètre et de prise en charge pour la COV. Une étude exhaustive des ouvrages et des réseaux doit être réalisée afin de déterminer précisément le contenu et les modalités d'exercice de cette nouvelle compétence. Il est alors proposé de signer des conventions de gestion au titre desquelles, pendant 4 ans, les communes de la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Venaissin géreront pour le compte de cette dernière la compétence en matière de gestion des eaux pluviales urbaines, permettant ainsi d'assurer la continuité de gestion du service. En application des dispositions de l'article L5215-27 et L5216-7-1 du Code général des collectivités territoriales, une communauté d'agglomération peut confier par convention la gestion de certains services relevant de ses attributions à une commune ou toute autre collectivité ou établissement public. Ce mécanisme est en outre conforté dans son mode de passation sans mise en concurrence ni publicité préalable par la jurisprudence communautaire. Donc, Cour de justice de l'Union européenne du 13 novembre 2008, Cour administrative d'appel de Paris du 30 juin 2009. Ville de Paris, ville de Hambourg, par la Cour de justice de l'Union européenne, voir aussi par analogie la Cour européenne, 3 février 2012, concernant Annecy et commune de Verrier-du-Lac. Vu la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, vu la loi numéro 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, considérant qu'en application des dispositions de l'article L5215-27 et L5216-7-1 du CGCT, la commune peut se voir confier par la communauté d'agglomération, au travers d'une convention, la gestion de certains services transférés par la loi à l'EPCI, l'établissement public de coopération intercommunale. Considérant qu'en l'état actuel, la commune est la mieux placée et organisée pour gérer ses eaux pluviales urbaines et que cette convention n'entraîne pas un transfert de compétences mais une délégation de la gestion du service en cause, vu la délibération du Conseil communautaire de la COV numéro 95-19 en date du 30 septembre 2019 proposant à la commune la conclusion d'une convention en ce sens, vu le projet de la convention, il est demandé au conseil municipal d'approuver le projet de convention de gestion de la compétence des eaux pluviales à conclure avec la COV, d'autoriser Monsieur le maire à signer ladite convention telle qu'annexée à la présente délibération.
Très bien, merci. Bon, le pluvial était en fait l'un des derniers domaines donc qui n'était souvent ni organisé ni connu. Donc il a été décidé, mais au vu de nombreux événements, il faut rapporter ça aussi à un côté économique, un côté sauvegarde des populations, il a été étudié de faire passer cette compétence dans le, mais disons de l'exprimer, de la faire passer dans le giron des collectivités. Donc la méthode qui est choisie, sachant que pour la plupart des communes, tout le territoire urbain, on parle bien de l'urbain, là, ça concerne les villages proprement dit, on ne parle pas des rivières par ailleurs. Donc il a été décidé que pendant 4 ans, le temps déjà de faire les relevés, puisque souvent on n'a pas d'état des lieux, on ne sait pas où passent les pluviaux, certains endroits il manque, certains endroits ils sont sous-dimensionnés. Pendant 4 ans, les communes continuent à assumer cette charge, c'est-à-dire, c'est vrai que ce sont elles qui sont les mieux placées pour intervenir rapidement et de manière efficace, notamment dans les nouveaux lotissements. Les communes prennent en charge leurs dépenses, la dite dépense leur est remboursée par l'intercommunalité, donc ce qui fait que c'est une opération blanche, mais parallèlement, donc à terme, ce sera défalqué de nos dotations. Et ça va faire comme toutes les compétences que nous transférons, que ce soit les crèches ou tout ce que vous pouvez imaginer. Mais néanmoins, ce laps de temps est donné. Donc voilà, ça aura certainement un coût, et certaines communes donc ne possèdent absolument rien en la matière.
Oui, et en cas d'investissement nécessaire, ça se passe comment ?
l'investissement, donc on est dans l'investissement.
Quand on dit gestion, c'est uniquement l'investissement, il n'y a pas de petit entretien sur les...
Alors le fonctionnement sera certainement créé à l'issue de ces 4 ans, un service de... Alors quelle forme revêtira-t-il, on n'en sait rien. À ce jour, il ne me semble pas qu'il y ait dans les communes de personnel affecté strictement au pluvial. Peut-être sera-t-il nécessaire de créer un nouveau service. Il y aura certainement un petit peu d'administratif. Mais enfin, essentiellement, c'est déjà le repérage à ce jour. Et ensuite, conception, réalisation et mise en fonction du réseau. Mais ce qui est certain, c'est que c'est une compétence qui va avoir un coût énorme pour toutes les communes.
Dans tous les cas, ça sera effectivement défalqué de nos, les, quoi, on est remboursé, mais en fait, c'est pris sur la contribution que l'on aura.
Donc, sur notre contribution.
C'est comme si nous, on payait. Quoi.
Comme oui. La seule différence, c'est que là, pendant 4 ans, chacun aura le loisir de s'organiser pour les endroits qui semblent les plus sensibles, donc au cas où il y en aurait. Et bon, vous savez que nous, déjà, on a largement commencé, puisque il y a au moins deux mandats quand on avait commencé à travailler sur les collines donc du Rougadou. On avait déjà mis des pluviaux, mais on sait que sur le village, eh bien, on a une grande galerie, une grande touve, comme on dit en provençal, qui traverse et dans lequel on a la chance de pouvoir collecter nos eaux pluviales, que l'on a la rivière ensuite au-dessous. Mais néanmoins, beaucoup de choses restent à faire. Il y a des endroits, ça va être très délicat pour si on doit un jour surfer entre les différents réseaux qui sont déjà dans les rues étroites. Bien, je le soumets à vos suffrages. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Labellisation de l'aire de covoiturage du parking de la gare routière et convention de la gestion avec le département de Vaucluse. Monsieur Delino Senti, s'il vous plaît. Alors, on commence par la 4. Convention de groupement de commandes avec le syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux pour les travaux de réhabilitation du réseau d'eau potable, d'assainissement collectif et du réseau téléphonique Chemin du Rempart. Monsieur Rouillard.
Monsieur le maire rappelle le projet de réfection des réseaux au chemin des remparts, notamment de réhabilitation des réseaux humides par le syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux. Les travaux à charge du syndicat sont estimés pour la partie eau potable à 175 000 euros hors taxe et à 290 000 euros hors taxe pour l'assainissement. La commune de Bédouin envisage de procéder à l'enfouissement du réseau Télécom Orange, opération estimée à 30 000 euros hors taxe. Il est proposé de s'associer au syndicat pour lancer une consultation conjointe. Au vu de ces éléments, il apparaît opportun d'établir une convention de groupement de commandes entre la commune et le syndicat Rhône-Ventoux afin de définir les conditions de fonctionnement d'une co-maîtrise d'ouvrage. Le syndicat sera désigné comme coordinateur du groupement et assurera la gestion administrative de l'opération. Par ailleurs, M. Dominique Rouillère et M. Denis Faure sont désignés en tant que membres titulaires et suppléants pour représenter la commune au sein de la commission des marchés. Vu le code de la commande publique, notamment les articles L2113-6 à L2113-8, vu le code général des collectivités territoriales, vu le budget de la commune, il est demandé au conseil municipal de donner un avis favorable au groupement de commandes et à la convention annexée à la présente délibération, de désigner messieurs Rouillère et Faure en tant que représentants de la commune au sein de la commission des marchés du groupement, d'autoriser monsieur le maire ou tout adjoint faisant fonction à signer la convention ainsi que toute pièce relative à la consultation pour la maîtrise d'œuvre et les travaux ainsi que tout document subséquent.
Très bien, merci. Donc il s'agit du chemin des remparts. Alors c'est une réhabilitation qu'on aurait dû faire juste l'année où le rempart s'est écroulé, ce qui fait que nous avons suspendu les travaux. Et comme donc vous le savez, puisque vous connaissez, vous connaissez le secteur, refaire les réseaux d'eau potable et d'assainissement, c'était une bonne chose, mais donc on met en souterrain aussi le réseau téléphonique, et bien entendu, c'est ce qui nous oblige à faire cette convention avec Rhône Ventoux. Voilà, donc ce sera l'image de Bédouin, en sortira améliorée. Bien, je soumets donc aux voix des oppositions, des abstentions. Merci pour cette unanimité. Et nous passons donc au point numéro 5, labellisation de l'aire de covoiturage du parking de la gare routière et convention de gestion avec le département de Vaucluse. Monsieur De Innocenti, s'il vous plaît.
Monsieur le maire explique que le département de Vaucluse s'est engagé dans une démarche de promotion des mobilités durables avec l'adoption du schéma départemental de développement du covoiturage en 2018. Son programme d'action consiste à favoriser la création d'un maillage d'espaces dédiés au covoiturage à l'échelle du territoire départemental et à soutenir les initiatives en faveur de son développement avec la mise à disposition d'outils et d'informations destinées à faciliter les déplacements quotidiens pour les trajets domicile-travail. Une plateforme de mise en relation des usagers, conducteurs et passagers a été mise en place via le site www.covoiturageavignon-vaucluse.fr. La collectivité souhaite s'associer à cette démarche. Le parking municipal P4 Gare routière, situé route de Crillon-le-Brave, sur la parcelle cadastrée G1750, était identifié et rempli les critères de labellisation lui permettant d'être référencé sur le site de covoiturage. Il est proposé de signer avec le département de Vaucluse une convention de gestion d'une aire de covoiturage d'une durée de 5 ans. Celle-ci prévoit que le conseil départemental assurera la fourniture et la pose de la signalétique. La commune aura la charge de l'entretien du parking et de la signalétique. Le maire conserve ses pouvoirs de police sur cette zone de stationnement. Aucun nouvel aménagement n'est requis. Ce sont 10 emplacements contigus et délimités qui seront réservés aux véhicules des usagers pratiquant le covoiturage conformément à l'arrêté du 8 janvier 2016. Vu la délibération numéro 2018-324 du 21 septembre 2018, par lequel le conseil départemental a adopté le schéma départemental de développement du covoiturage. Vu le projet de convention, il est demandé au conseil municipal d'approuver le projet de convention de gestion d'une aire de covoiturage labellisée par le département de Vaucluse, d'autoriser Monsieur le maire à signer signer ladite convention telle qu'annexée à la présente délibération et tout autre document afférent.
Très bien, merci. Donc, mais là, comme vous le voyez, on est dans le respect environnemental, on est dans la transition écologique, on est dans les déplacements partagés, vous voyez. Il ne faut pas toujours laisser faire les spécialistes, mais il y a toujours du travail de fond qui existe et qui est lancé depuis longtemps, d'ailleurs, avec le département. Donc, nous aurons notre aire sur Bédouin, au P4 de la gare routière, et compte tenu de la configuration du terrain et autres, finalement, hormis le fait de fixer les pancartes, donc on n'aura pas de travaux conséquents. Ce sera simplement une identification du lieu où, je l'espère, eh bien, nous pourrons tous covoiturer bientôt.
Il y aura le marquage au sol aussi, sur la charge par le département. Et on a choisi cet emplacement parce que c'était l'endroit le moins fréquenté. Il était de 3/4 libre tout le temps, donc on a dit, je pense que c'est le meilleur endroit.
Voilà, la proximité des bus. Bien,
vas-y. Oui, juste deux remarques par rapport à ça. Donc effectivement, le moins fréquenté, donc je ne sais pas si c'est le plus propice en période hivernale pour laisser un véhicule. Ça, c'est ma première remarque, parce qu'en fait, c'est un véhicule qui va être isolé à tous les coups.
Mais on a réfléchi à mettre une vidéosurveillance là.
D'accord, bon, ça c'est déjà un bon point, parce que ce n'était pas sous vidéosurveillance cette zone. Hein.
Non.
Voilà, ça c'était le premier point. Puis ensuite, concernant la zone réservée aux usagers pratiquant le covoiturage, comment on va je dirais, discriminer à un certain moment ceux qui pratiquent le covoiturage et qui sont garés dessus ou pas.
Ben, il y aura un marquage au sol. Bon, les gens vont garer leur voiture.
Si quelqu'un qui covoiture pas ce gare-là, c'est pas bien grave. Quoi.
Ben, c'est-à-dire, vu la place qu'il y a, oui, qui voilà. Est toujours libre, c'est pas
gênant. Oui, non, mais c'était
après, ce... bon, c'est pour ça qu'on a décidé dans le futur de mettre une caméra de vidéosurveillance pour voir un peu comment ça se passe. Si vraiment il y a des problèmes, bon, on pourra regarder de plus près. Quoi.
Parce qu'effectivement, sur les zones de covoiturage, notamment les sorties d'autoroute, tout ça, il y a souvent des barriérages.
Oui, tout à fait.
Et là, c'est vrai que la zone sans vidéosurveillance, je trouve un petit peu risquée. Quoi. Mmh.
Voilà. Bah, il faut voir un peu le succès que ça va amener, ça. Parce que bon, si c'est anodin, faire un gros investissement...
De toute façon, on
démarre.
Je pense qu'ils vont préférer se mettre sur le course ou quelque chose comme ça que tout seul là-bas. Quoi.
Ça c'est sûr, mais bon, le problème, il fallait démarrer, donc on a mis le doigt dedans. Je trouve que c'est une bonne initiative, et si ça prend de l'ampleur, ben, on verra ce qu'on peut faire par la suite, quoi.
Eh bien, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Nous passons au point numéro 6 dans le cimetière communal, engagement de la procédure de reprise des concessions funéraires perpétuelles en état d'abandon et des sépultures en terrain commun. Monsieur Dell'Innocenti, merci.
Alors, monsieur le maire, informe les membres du conseil municipal qu'un état des lieux a été effectué dans le cimetière communal de Bédouin le 3 juillet 2019. Il ressort qu'à ce jour, la commune dispose de peu d'emplacements disponibles, à savoir 20 concessions en pleine terre, trentenaire uniquement, 9 emplacements en terrain commun et un caveau. Or, 6 concessions perpétuelles se trouvent en état manifeste d'abandon depuis 2017. Pour 14 autres concessions, des recherches approfondies sont en cours. Pour remédier à cette situation et permettre à la commune de récupérer les 6 emplacements délaissés, une procédure de reprise de ces concessions est prévue au Code général des collectivités territoriales, notamment aux articles L22-23-4, R22-23-13, à R22-23-21. Il faut préciser que la commune reste propriétaire des emplacements concédés. La concession n'étant qu'un droit d'usage de terrain communal, les concessionnaires ont toutefois le devoir d'entretenir l'espace ainsi mis à leur disposition. Mais ceci devient de plus en plus difficile au fil du temps quand les attributaires sont décédés et n'ont plus d'ayant droit. La procédure de reprise d'une concession perpétuelle abandonnée doit répondre à plusieurs conditions cumulative. Je ne connaissais pas celui-là. C'est bien fait de venir. Expiration d'un délai de 30 ans à compter de l'acte de concession. Engagement de la procédure au minimum 10 ans après la dernière inhumation faite dans le terrain concédé. Absence d'entretien de la concession. Le constat d'abandon est strictement encadré et des formalités substantielles doivent être respectées. Procès-verbaux. Recherche des descendants ou successeurs, affichage. À l'issue du second PV dressé, à l'issue d'un délai de 3 ans, suivant l'affichage du constat, le conseil municipal sera appelé à se prononcer sur la reprise ou non de la concession. Monsieur le maire ajoute que, dans les conditions fixées par l'article R22-23-5 du Code général des collectivités territoriales, une concession se trouvant dans un espace commun fera l'objet d'une reprise. En effet, lorsque l'emplacement n'a pas fait l'objet d'un acte de concession, il est considéré comme situé en terrain commun. Dans ce cadre, la commune a la faculté de procéder à la reprise de la sépulture dans les conditions fixées à l'article R22-23-5 du Code précité. L'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de 5 ans en 5 ans. Au terme de ce délai, dit de rotation, la reprise de la sépulture en terrain commun est possible sans formalité particulière. Toutefois, la commune assurera la publicité de cette décision de reprise. Oui, l'exposé de monsieur le maire, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la liste des concessions considérées comme un état manifeste d'abandon, il est demandé au conseil municipal de donner un accord de principe au lancement de la procédure de reprise des concessions manifestement abandonnées et des concessions se trouvant dans un espace commun dont la liste est annexée à la présente délibération, qui ne sont plus entretenus depuis au moins l'année 2017. D'autoriser Monsieur le maire à engager et poursuivre la procédure telle que prévue par le Code général des collectivités territoriales et de signer toute pièce afférente.
Très bien, merci. Procédure habituelle, vous voyez qu'il faut anticiper, donc, puisque l'an de travail est échéance 3 ans. Donc on a effectivement la liste de familles dont on a cherché à retrouver à la fois les héritiers ayant droit, et on a procédé aux publicités comme il se doit, et parfois lors de Toussaint et autres, ça génère un certain mouvement, et on a eu à des moments donnés des signalements d'existence de personnes qui auraient été susceptibles de venir entretenir ces tombes. Donc rien de bien particulier, des questions là-dessus, je le mets aux voix, des oppositions, des abstentions, merci pour cette unanimité. Ouverture des commerces, dérogation à la fermeture dominicale, Joël, merci de procéder à la lecture.
Par dérogation au principe du repos dominical, l'article L3132-26 du Code du travail permet au maire d'accorder une autorisation d'ouverture des commerces de détail le dimanche pour un maximum de 12 dimanches par an par branche d'activité. La liste des dimanches doit être arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante. Article L3132-26 du Code du travail après avis du Conseil municipal. La dérogation d'ouverture peut être accordée uniquement aux commerces de détail, les établissements de commerce de gros, les prestataires de services et les professions libérales, artisans ou associations ne peuvent en bénéficier. La demande d'ouverture peut être indifféremment sollicitée par un seul commerçant, une union commerciale, un groupement professionnel, et la dérogation s'appliquera en totalité des établissements qui se trouvent dans la commune au même type de commerce. 5 des 12 dimanches relèvent l'initiative du maire. Pour les 16 autres, la dérogation doit être accordée après avis conforme de l'EPSI, dont la commune est membre. À défaut d'avis rendu dans les 2 mois, celui-ci est réputé favorable. La dérogation doit également être soumise pour avis aux organisations syndicales d'employeurs et de salariés intéressés. Cet avis ne lie pas le maire qui reste libre d'accorder sa dérogation. Vu la demande d'ouverture formulée par le gérant de la cave coopérative des Vignerons du Mont-Ventoux en date du 16 octobre 2019, en considérant qu'une demande similaire avait été formulée pour l'été 2019, vu l'avis favorable de la cave et de la Fédération du commerce à distribution en vue de l'ouverture des commerces de détail, 12 dimanches en 2020 sont au calendrier proposé ci-dessous. Considérant le caractère de commune touristique ayant fait l'objet d'un arrêt de classement préfectoral et l'intérêt pour les commerces de détail du village de pouvoir proposer leurs produits à la vente durant la saison estivale. Considérant la proposition d'ouverture dominicale des commerces pour 2020, 21 juin, 28 juin, 5 juillet, 12 juillet, 19 juillet, 26 juillet, 12 août, 9 août, 16 août, 23 août, 30 août et 6 septembre. Il est demandé au conseil municipal d'émettre un avis favorable sur le calendrier 2020 relatif aux ouvertures dominicales autorisées pour les commerces de détail et de rendre applicable une fois la présente délibération rendue exécutoire.
Très bien, merci Joël. Donc c'est une procédure qui avait déjà été établie en 2019 et vous auriez bien compris que si la loi me donne le droit de choisir 5 des dimanches donc pendant lesquels on estime que le caveau doit être ouvert, c'est bien les vignerons du Mont-Ventoux qui ont choisi ce qui leur paraissait le plus intéressant. Je le soumets donc à vos suffrages, des oppositions, des abstentions. Je vous remercie pour cette unanimité. Point numéro 8, maison de santé pluriprofessionnelle, approbation du projet de bail professionnel et fixation du loyer. Monsieur Fort, s'il vous plaît.
Alors, monsieur le maire rappelle que par délibérations successives adoptées depuis 2014, le conseil municipal a décidé de construire une maison de santé pluriprofessionnelle jouxtant le nouvel EHPAD de demain. Cette opération va permettre de remédier à la désertification médicale en mettant à disposition des 13 professionnels de santé, des locaux mutualisés et fonctionnels. Le projet de santé a été approuvé par l'Agence régionale de santé. L'avancée des travaux de réalisation de cet établissement permet d'envisager une réception du chantier au cours du début de l'année 2020. Dans cette perspective, il convient de définir les modalités de location des locaux aux praticiens. Le contrat qui sera conclu entre la commune et les futurs preneurs prendra la forme d'un bail à usage professionnel régi par les dispositions suivantes. Article 57A inséré dans la loi numéro 86-1290 du 23 décembre 1986. L'article 36 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989. Les articles 1714 à 1762 du Code civil. L'article 63 de la loi 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. Le bail professionnel est consenti pour une durée de 6 années consécutives. Le congé et la résiliation anticipée sont soumis à un délai de préavis de 6 mois. À défaut de congé, le contrat est reconduit pour une durée de 6 ans. Les biens loués sont exclusivement destinés à des activités médicales ou paramédicales. Le loyer calculé uniquement sur les surfaces privatives a été déterminé en fonction de la part d'autofinancement communal supportée pour la construction de la MSP et de l'emprunt subséquent. Il s'élève, le loyer, à 114,02 euros par an et par mètre carré de surface privative et sera exonéré de taxes. Il sera payable trimestriellement, terme à échoir. Indépendamment du loyer, le preneur devra rembourser en sus du loyer toutes les charges locatives, contributions et charges de ville. Les locaux mis à bail seront entretenus par la collectivité qui mettra à disposition des espaces communs, espaces d'accueil, de circulation, sanitaires, salles d'attente, représentant plus de 160 mètres carrés et en assurera l'entretien. Les charges électricité, eau, maintenance des installations, assurance, ménage, entretien du bâtiment, frais administratifs sont évalués à 146,62 euros par an et par mètre carré de surface privative. Elles feront l'objet d'un décompte précis et d'une régularisation au cours du premier semestre de l'année suivante, en plus ou en moins. La commune renonce par ailleurs au dépôt de garantie. Le loyer sera indexé annuellement sur l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, publié par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier indice connu à la signature de l'acte. La cession du bail sera réglementée. Ce dernier pourra être cédé par le preneur à toute personne lui succédant dans sa profession, sous réserve de l'agrément préalable du bailleur, appelé à la signature de l'acte de cession. La liste des bureaux mis en location est la suivante. Donc on a trois bureaux de médecins. Médecin 1, 22 mètres carrés, soit 12,42% de la surface totale privative. Loyer 2508, charge 3226, total 5734. Médecin 2, une surface un tout petit peu plus importante, 22,89 mètres carrés, soit 12,92%. Loyer 2610, charge 3356, total 5966. Troisième bureau de médecin, 22,98 mètres, soit 12,97%. 2620 de loyer, 3369 de charges, total 5989. Pédicure, podologue, 30,83 mètres carrés, soit 17,40%, 3515 euros de loyer et 4520 euros de charges, soit un total de 8035. L'ostéopathe, 17,29 mètres carrés, soit 9,76 du total, loyer 1971. Charge 2535, total 4056. Dentiste, 31,61 mètres carrés, soit 17,84% du total. Loyer 2604, charge 4635, total 8239. Orthophoniste, 14,74 mètres carrés, soit 8,32% du total. Loyer 1681, charge 2161, total 3842. Les 5 infirmières et infirmiers, 14,82 mètres carrés, 8,37 du total, 1690 de loyer, 2173 de charges, total 3863. Le total, je ne vous le lis pas. Considérant que les baux de location seront conclus par M. le maire en vertu de la délégation de l'article L 2121 L-22-5 du Code général des collectivités qu'il a reçu au Conseil municipal par délibération numéro 2014-021 du 9 avril 2014, le chargeant de décider de la conclusion et du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Considérant que la location des locaux nus est en principe exonérée de TVA et que la commune renonce à opter à la TVA pour ce type de locaux professionnels, vu le Code général des collectivités, vu le Code général des impôts, vu le projet de bail, oui, l'exposé de M. le maire, il est demandé au Conseil d'approuver les termes du bail professionnel devant être souscrit avec les professionnels de santé, d'accepter le tarif du loyer à hauteur de 114,02 € par an et par mètre carré de surface privative et de ne pas retenir l'option à la TVA, ainsi que le montant prévisionnel annuel des charges établi à 146,62 € le mètre carré. D'autoriser M. le maire à signer tout document relatif à la présente délibération.
Très bien, merci. Mais vous voyez, les choses avancent. Donc, puisqu'on parle des tarifs de location, pour information, l'ouverture de la maison de santé pluriprofessionnelle est programmée pour décembre. Néanmoins, nous avons le mois de janvier que nous avons pris en tampon, ce qui fait que dans le pire des cas, et sauf grave interruption à partir de ce jour, au 1er février, donc, vous pourrez aller vous faire soigner à la MSEP. Des précisions, Monsieur Faure ?
Pas de précision, si ce n'est que il est possible qu'il y ait un petit peu de retard, compte tenu d'un problème d'étanchéité, et donc de difficulté à identifier les fuites. Voilà. Enfin, bon, c'est une histoire de une semaine ou deux, donc je pense que le mois de tampon qu'on a suffira
à... Très bien. Très bien. Je le soumets à vos suffrages, des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Point numéro 9, indemnité de conseil au comptable public. Nous en avions parlé lors d'un dernier conseil. Le comptable ayant changé, on est obligé de reprendre la même délibération. Alors vous le voyez, on a une lecture... extrêmement intéressante, que je vais demander à M. Faure de nous lire.
Alors, M. le maire rappelle que par délibération 2018-089 du 17 septembre 2018, le Conseil municipal a approuvé le versement d'une indemnité de conseil au profit du comptable du Trésor, chargé des fonctions de receveur municipal. En effet, sur la demande de la commune, le receveur municipal peut fournir des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable, notamment pour l'établissement des documents budgétaires et comptables, la gestion financière, l'analyse budgétaire, financière et de trésorerie, la gestion économique, en particulier pour les actions en faveur du développement économique, et de l'aide aux entreprises, la mise en œuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières. Le taux maximum avait alors été décidé, puis revu à 50% pour l'année 2019, par délibération numéro 2019-099 du 18 septembre 2019, au regard de la qualité dégradée du service rendu à la collectivité. L'attribution de l'indemnité de conseil est acquise en principe pour toute la durée du mandat du conseil municipal. Une nouvelle délibération est requise en cas de changement de comptable public. Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 97, vu le décret numéro 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnité par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'État, vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux indemnités de conseil allouées par les communes pour la confection des documents budgétaires, vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée au comptable non centralisateur du Trésor, chargé des fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux, considérant la nomination de Mme Anne-Laure Tivoli en tant que responsable intérimaire du Centre des finances publiques de Carpentras à compter du 2 septembre 2019, considérant que le Conseil municipal se réserve le droit de revoir le taux de l'indemnité en fonction de la qualité des services et du conseil délivré à la collectivité. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le versement à Mme Anne-Laure Tivoli d'une indemnité de conseil au taux de 100% en sa qualité de comptable du Trésor chargée des fonctions de receveur de la commune de Bedouin à compter du 2 septembre 2019. L'indemnité de conseil sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983. Les sommes correspondantes au versement de cette indemnité seront imputées sur l'article budgétaire 6225 de la section de fonctionnement.
Donc, procédure assez classique, vous voyez, on part avec un a priori favorable, puis on part sur une indemnité de conseil au taux de 100%, pour rata temporis, bien entendu. Je le soumets à vos suffrages, des oppositions, des abstentions. Je vous remercie pour cette unanimité. Point numéro 10, Association des communes forestières de Vaucluse, désignation du représentant de la commune. Monsieur Faure, s'il vous plaît.
Monsieur le maire rappelle que par délibération numéro 2019-095 du 18 septembre 2019, le conseil municipal a décidé de l'adhésion de la commune à l'association des communes forestières pour le département de Vaucluse. Il convient de désigner le représentant de la commune et son suppléant, vu le code général des collectivités territoriale, vu les statuts et la composition du conseil d'administration de l'association nouvellement constituée, vu la candidature de M. Luc Reynard en tant que titulaire et de M. Denis Faure en tant que suppléant, il est demandé au conseil de désigner M. Luc Reynard représentant titulaire de la commune auprès de l'association des communes forestières de Vaucluse et de M. Denis Faure en tant que suppléant.
Très bien, merci. Donc on officialise, donc il a été officialisé la création de l'association et donc des représentants doivent être désignés au sein de l'intercommunalité. Y a-t-il des questions, remarques? Je le soumets donc à vos suffrages, des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Acquisition foncière d'une partie de la parcelle cadastrée, section G 1483. Point numéro 11,
monsieur Petit. Monsieur le maire fait part à l'Assemblée délibérante du projet d'acquérir un triangle de terrain d'environ 17 mètres carrés au nord-ouest de la parcelle cadastrée, section G numéro 1483, au lieu dit Les Florents, sise 3 chemins de la maison de retraite et appartenant à monsieur et madame Van der Waart. Cette acquisition à l'euro symbolique permet le déplacement de la clôture et facilite la giration des véhicules sur le chemin de la maison de retraite. Cette parcelle est classée en zone UC. Le cabinet Grimont, géomètre expert, est chargé de procéder au plan de division, à l'établissement du document modificatif parcellaire et du bornage. Les frais de géomètre et d'acte sont à la charge exclusive de la collectivité. Vu le code général des collectivités territoriales, vu le code général de la propriété des personnes publiques, vu l'accord de M. Gérard Van der Waart en date du 23 septembre 2019, et vu le projet de division, considérant qu'au regard du prix d'acquisition, la commune n'est pas tenue de saisir France Domaine, vu les crédits inscrits au budget principal de la commune, il est demandé au conseil municipal d'acquérir la parcelle de 17 mètres carrés issue du détachement de la parcelle G1483 pour l'euro symbolique, de charger maître en auxe notaire à Bédouin de la rédaction de l'acte, d'autoriser monsieur le maire, tout adjoint faisant fonction, à signer toute pièce afférente à cette opération et engager les travaux.
Très bien, merci. Donc il s'agit de l'angle de la parcelle donc qui se trouve face au portail d'entrée de la maison de retraite que nous avons d'ailleurs déjà occupé depuis quelques jours puisqu'on y a établi la déviation qui nous a permis d'installer notamment le fameux pluvial sur le chemin de la Faune du Loup entre le cimetière et le monument aux morts. Je tiens à signaler, à remercier encore une fois M. et Mme Van der Waart qui nous avait déjà cédé une bande tout au long du chemin. Nous avions bien sûr déplacé la clôture, ce qui était quand même le minimum, et ce qui nous permet d'avoir maintenant un accès et surtout une possibilité de giration pour les véhicules longs, puisque c'était le cas pour les bus qui se rendaient au Florent là, pendant ces quelques jours. Bon, même si on n'est pas véritablement en saison estivale, il y en a eu. Et si on n'avait pas disposé de ce petit angle de 17 mètres carrés, eh bien, il aurait fallu faire marcher les résidents, ce qui n'était pas très intéressant pour eux. Donc, je le soumets à vos suffrages, des oppositions, des abstentions. Je vous en remercie. Et nous passons au point suivant, au point numéro 12, qui revient à Madame Roux, qui va nous parler du Grand Emphase Jeunesse 2019-2022, avec la Caisse d'allocation familiale et la MSA de Vaucluse.
La commune de Bédouin a signé avec la Caisse d'allocation familiale de Vaucluse et la Mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse un contrat enfance-jeunesse, volet jeunesse, dont l'échéance est arrivée à son terme le 31 décembre 2018. La conclusion du CEJ avait été autorisée par délibération numéro 2015-101 du 10 novembre 2015. La commune souhaite renouveler le contrat enfance-jeunesse pour sa partie jeunesse avec le même partenaire qu'est la CAF de Vaucluse pour une durée de 4 ans, soit de 2019 à 2022. S'agissant de la contribution financière de la MSA, dans l'attente de la convention d'objectifs et de gestion, l'engagement financier est limité à la seule année 2019. Monsieur le maire précise que seules les actions séjour, accueil de loisirs des moins de 6 ans et coordination sur les actions antérieures à 2015 sont renouvelées. Le poste de coordination ne peut plus bénéficier de la prestation du service du CEJ étant lié à la réforme du rythme scolaire. Il en va de même pour l'accueil jeune en raison de la fermeture de la structure. Dorénavant, les actions doivent s'inscrire dans le cadre d'un appel à projet. Vu le projet de convention, vu le budget de la commune, il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention d'objectifs et de cofinancement enfance-jeunesse avec la CAF de Vaucluse et la MSA Alpes-Vaucluse pour la période 2019-2022, permettant la poursuite des actions destinées à la jeunesse. D'autoriser Monsieur le maire à signer le contrat enfance-jeunesse dans la continuité du précédent contrat et tous les documents y afférents, notamment les avenants susceptibles d'intervenir dans ce cadre.
Très bien, merci. Donc, on renouvelle comme cette convention qui est triennale avec tous les aménagements qui s'imposent au fur et à mesure du temps, enfin, qui ne sont pas de notre fait, mais qui sont plutôt du fait de nos partenaires. Des questions particulières ? Bien, je le soumets à vos suffrages, des oppositions, des abstentions. Merci pour cette unanimité. Projet d'inclusion du handicap, c'est une demande de subvention auprès de la Caisse d'allocation familiale de Vaucluse. Un cas particulier, Madame Roux, je vous laisse nous l'exposer. Merci.
Monsieur le maire informe les conseillers municipaux de la situation d'une élève de l'école élémentaire qui, suite à une intervention chirurgicale, nécessite un accompagnement à partir de la rentrée des vacances de Toussaint. Il propose la mise à disposition d'un animateur à raison de 13,5 heures par semaine et ce, afin de permettre à l'enfant de poursuivre sa scolarité. Le coût de recrutement d'un animateur s'élèverait à 1346 euros, représentant 94,5 heures pour la période allant du 4 novembre au 20 décembre 2019. Dans le cadre du projet d'inclusion du handicap, la CAF pourrait apporter une aide exceptionnelle plafonnée à 50 euros par jour et 1050 euros au total. Le centre communal d'action sociale supporterait le reste à charge, soit 296 euros. Ce qui nous amène à un total de dépenses du coût du salaire pour 1346 euros et des recettes qui sont composées de l'aide exceptionnelle de la CAF pour 1050 euros, l'aide du CCAS pour 296 et ça nous permet d'arriver au total de 1346 euros. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le recrutement d'un animateur pour accompagner un élève souffrant de handicap et lui permettre de poursuivre sa scolarité, d'autoriser Monsieur le maire à solliciter une aide financière de la CAF de Vaucluse ainsi qu'une participation du Centre communal d'action sociale et à signer tout document afférent.
Très bien, merci. Mais voyez, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Donc, de manière à être efficace rapidement et donc à permettre cet accompagnement. D'ailleurs, l'animateur a commencé le 4, il a commencé avec la rentrée scolaire. Eh bien, très bien, on espère simplement que cet enfant pourra profiter pleinement et poursuivre harmonieusement cette scolarité. Et ça s'est très bien passé. Voilà, déjà. Oui, puisqu'elle est immobilisée des deux bras, ce n'est pas très pratique. Ouais. Je le soumets donc à vos suffrages, des oppositions, des abstentions, je vous remercie. La restauration scolaire tarie dans le cadre d'un projet d'accueil individualisé, un PAI. Madame Trévilly, s'il vous plaît.
Les
les enfants ayant des problèmes médicaux ou abstraints à un régime alimentaire défini dans le cadre d'un PAI, projet d'accueil individualisé, peuvent bénéficier du service de restauration scolaire, soit en prenant les repas préparés et fournis par l'équipe de restauration et adaptés en fonction des recommandations du médecin prescripteur, soit en consommant le repas froid fourni par les parents et selon les modalités définies dans le projet d'accueil. Il est proposé au conseil municipal de fixer un tarif spécifique pour les enfants accueillis au service de restauration scolaire, mais qui consomment les repas fournis par leurs parents dans le cadre d'un projet d'accueil individualisé. Ce tarif s'élèverait à 1,50 € par jour de présence au service de restauration scolaire. Les tarifs de la restauration scolaire seraient les suivants. Donc pour les élèves résidant sur la commune de 80, élèves résidant dans une autre commune, 3 €, élèves inscription hors délai, 3,50, élèves repas PAI, 1,50, adultes, 5,60, événementiel, 11,20 €. Vu le code général des collectivités territoriales, vu les règlements intérieurs et financiers de la restauration scolaire du pôle JE, il est demandé au conseil municipal de fixer à compter du 4 novembre 2019 à 1,50 € par jour de présence au service de restauration scolaire le tarif appliqué aux enfants accueillis dans le cadre d'un projet d'accueil individualisé qui consomme les repas fournis par les parents. De dire que ce tarif sera encaissé par la régie Pôle JE à l'article 7067 de la section de fonctionnement du budget principal.
Très bien, merci. Et donc, pour résumer, vous avez bien compris qu'il n'est pas question de faire payer à tarif plein un repas donc, qui est fourni par les parents du gamin. Et bon, on n'a pas eu beaucoup de PAI pour le moment, mais disons, on commence à prendre les précautions, et donc c'est une bonne chose. Je le soumets donc à vos suffrages, des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Modification du tableau des effectifs du personnel communal pour les emplois permanents. Donc, le conseil municipal s'est prononcé en début de séance en faveur de la municipalisation de la maison des services au public et d'une reprise en gestion directe par la commune de ce service. Il convient désormais de prévoir l'intégration du salarié de l'association au sein des effectifs municipaux à compter du 1er janvier 2020 et le transfert de son contrat. En effet, l'article L1224-3 du Code du travail dispose que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer un contrat de droit public à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Par conséquent, et sous réserve de remplir les conditions générales de recrutement des agents publics, notamment l'aptitude physique, la collectivité proposera de reprendre les clauses substantielles du contrat de l'intéressé, à savoir la durée indéterminée, le travail à temps non complet, à raison de 25 heures par semaine, les missions relevant du cadre d'emploi d'un animateur territorial concernant la qualification et les activités. Par correspondance avec les cadres d'emploi de la fonction publique territoriale, il est donc envisagé de créer un poste d'animateur territorial non titulaire en CDI à temps non complet à raison de 25 heures hebdomadaires. S'agissant de la rémunération et considérant qu'elle ne doit pas excéder ce que percevrait un agent public pour des fonctions analogues, la collectivité ne sera pas en mesure de proposer son maintien. La rémunération sera composée du traitement indiciaire afférent au grade d'animateur territorial au 11e échelon, indice brut 538, indice majoré 437, et l'intéressé bénéficiera du régime indemnitaire, tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel afférent au grade et aux fonctions exercées. Vu l'article L1224-3 du Code du travail, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L2121-19, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 83 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu la loi numéro 2009-972 relative à la mobilité et au parcours professionnel dans la fonction publique, vu le décret numéro 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, vu le budget de la commune, vu l'organigramme hiérarchique des services municipaux, vu le tableau théorique des effectifs, vu l'avis favorable du comité technique en date du 6 novembre 2019, il est demandé au conseil municipal de créer à compter du 1er janvier 2020 un poste d'animateur territorial non titulaire à temps non complet aux conditions précisées là-dessus, de modifier le tableau théorique des effectifs annexé à la présente délibération, d'actualiser le RIFSEP afférent au grade et au poste occupé, de dire que les crédits seront inscrits au chapitre 012 du budget principal 2020. Je vous remercie. Y a-t-il des questions particulières? Donc, comme vous l'avez compris, c'est le recrutement donc, de la personne qui assure actuellement le fonctionnement de la MSAP et qui, disons que nous souhaitons... intégré que nous souhaitions, avec néanmoins une contrainte qui est celle de l'ajustement du traitement. Bien sûr, ça a été fait en plein accord avec lui. Hein. Il était tout à fait libre de refuser, mais je pense donc qu'il est satisfait de ce que nous avons convenu ensemble. Des questions?
Simplement une précision, donc c'est au prorata des 25 heures dans le premier temps, c'est ça? La rémunération.
Oui, on travaille sur les 25 heures qui sont le contrat de base des maisons de service.
Et sa rémunération, donc, elle est effectivement au prorata du grade d'animateur territorial 11e échelon.
D'accord. Oui, et c'est un prorata. Et donc là, étant à 25 heures, c'est le prorata exact, payer le prorata exact du salaire brut. Je le soumets au suffrage, des oppositions, des abstentions. Je vous remercie pour votre unanimité. Budget principal, décision modificative numéro 3. Monsieur Faure, s'il vous plaît.
Conformément à l'article L1612-11 du Code général des collectivités territoriales, il est proposé une décision modificative au budget principal permettant d'ajuster les prévisions budgétaires initiales votées le 11 avril 2019 tout en maintenant l'équilibre budgétaire. Vu les délibérations numéro 2019-054 du 11 avril 2019 portant approbation du budget de la commune pour l'exercice 2019, numéro 2019-088 du 8 juillet 2019 et 2019-097 du 18 septembre 2019 décidant de modifier les inscriptions budgétaires DM numéro 01 et 02, considérant que par décision numéro 2019-128 du 30 septembre 2019, l'emprunt contracté en 2012 pour un montant de 750 000 euros a fait l'objet d'un réaménagement et qu'il convient par conséquent de prévoir les crédits supplémentaires à l'article budgétaire 6611, intérêts réglés à l'échéance, considérant les crédits inscrits au chapitre des dépenses imprévues 022, considérant le remboursement sur rémunération du personnel intervenu à l'article budgétaire 6149 et les crédits nécessaires au chapitre du personnel 012, vu le projet de décision modificative numéro 3, il est demandé au conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 3 telle qu'annexée à la présente délibération.
Très bien, merci. Donc c'est une renégociation d'un emprunt qui avait été fait à l'époque, mais le seul du mandat d'ailleurs, pour terminer la mairie. Nous étions à l'époque à 3,9%, on renégocie actuellement à 0,4%, ce qui est assez intéressant. Voilà. Je soumets donc cette renégociation à vos suffrages. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie pour votre unanimité. Nous allons retirer les deux dossiers
Donc, décision modificative numéro 04 et le 18, la convention de projet urbain partenarial pour des travaux d'extension du réseau d'électricité sur le chemin des Granges. Ce sont les deux délibérations qui sont liées. Et il s'agit donc d'une amenée dans une zone urbanisée de l'électricité qui se trouvant au-delà des 100 mètres réglementaires d'extension, il y a 110 mètres ou 113, donc doit être prise en charge pour la commune. Donc ce sera pris en charge par le pétitionnaire et en contrepartie, comme ça se fait dans le cadre des PUP, sur les deux logements qui devraient se construire, nous ne percevrons pas de taxes locales d'équipement. Mais comme on n'avait pas les chiffres et qu'il nous faut absolument que ce soit au centime près, donc nous les retirons et ça passera dans un prochain conseil municipal. Alors dans les questions diverses, vous avez un relevé de toutes les décisions donc, qui ont été prises. Vous voyez, bon, il y a des non-préemptions, il y a des attributions de l'eau de truffe, donc, et tout un tas d'autres choses. Est-ce qu'il y a des questions particulières?
Oui, pardon. Je vois qu'il y a le recours au tribunal administratif du préfet qui est sorti. On a nommé le monsieur Guéin comme avocat, c'est ça?
Voilà, oui. Oui, on a pris le...
Ça, c'est suite aux modifications du PLU,
c'est suite au PLU, oui. Okay. Sachant qu'on en est strictement là pour le moment.
D'accord. Il n'y a pas de nouvelles complémentaires par rapport à ça? Ok. Budget principal, réalisation d'un emprunt de 650 000 euros. De mémoire, l'équilibre budgétaire était un peu plus de 700 000, non? 670,
on avait. Ouais. Je savais que c'était un peu. Donc on a un peu moins emprunté, mais c'est, on règle en fin d'année. Là. Et toujours au même, c'est toujours au même taux, à 0,40%.
La durée?
Celui-là. À 0,5, oui, celui-là, pardon, à 0,50 sur une durée de 15.
Et en dessous, donc, c'est le réaménagement du prix qu'on a parlé, donc on a délibéré juste précédemment, c'est ça? 30,09,
oui. L'année dernière. Ils disent oui. Oui, c'est ça, oui. Okay. Voilà, reconduction de la convention d'occupation du terrain d'assiette du domaine skiable, c'est annuel. Et donc, voilà, ça va perdurer.
Ok, je pense qu'on le verra après pour la... Marché à procédure adaptée pour la romanité.
Oui, ben, Dominique Rouillard. Donc vous nous aviez sollicité pour aborder lors du conseil du 7 novembre l'état d'avancement des projets suivants, le projet de la romanité office du tourisme et le projet des salles de sport, de la salle des sports, pardon. Monsieur Rouillard, quelle précision à vous.
Allumé.
Le feu.
Sur la salle des sports, la première réunion de chantier a eu lieu de mémoire la semaine passée. C'était plus une coordination avec les entreprises pour qu'également elles puissent affiner leur plan d'exécution. Ensuite, le chantier débutera effectivement sur place lundi 18 novembre pour une durée normalement de 6 mois et demi. Voilà, donc tous les marchés ont été notifiés aux entreprises. Sur la romanité, les lots sont en cours de notification aux entreprises pour l'ensemble d'un montant de 948 859 euros hors taxes, qui correspond à peu près à l'estimatif prévisionnel. Et demain matin, il y a une réunion ici en mairie avec l'ensemble des acteurs pour finaliser justement les actions et voir après les dates de démarrage, etc.
Pour avoir les lots attribués, les
oui, entreprises, c'est ça? Oui.
Très bien. Vous nous aviez saisi il y a quelques jours par courrier d'une opération de nettoyage. Monsieur Charbonnel, qui est en charge de ce domaine, va vous en parler.
Oui, effectivement, vous vous plaignez apparemment à la fontaine à côté de la pharmacie où effectivement nous avons un vol important des tourneaux. Vous savez que c'est pas facile, donc j'ai vu avec il faut savoir aussi qu'ils nettoient pratiquement au Karcher, il faudrait le faire tous les jours. Alors vous imaginez le travail. Alors par contre, ce que j'ai vu avec Gilles, c'est que vous savez que tous les 4-5 ans, nous faisons tailler platane. Donc il a regardé, celui-ci est à tailler. Donc je lui ai demandé de le tailler en premier. Et donc ce taillage va s'effectuer, je crois, le 25-26 de ce mois-ci. C'est vrai que c'est sale. Autre chose aussi, c'est vrai que ces étourneaux, c'est un problème pour toutes les collectivités. Je me suis quand même aussi renseigné auprès d'une société qui se trouve à Morières-les-Avignon avec des rapaces, vous savez, qui font fuir, donc c'est une opération dont je me suis renseigné, le prix est quand même assez coûteux, mais bon, c'est un renseignement comme ça, mais peut-être que dans les années à venir, si ça se trouve que nos arbres ne sont pas taillés, peut-être qu'il faudra faire une intervention de ce genre, donc je suis en train de m'en occuper. Donc voilà, vous parlez c'est vrai que c'est ça là, mais bon... Les étourneaux sont arrivés là. Habituellement, ils ne viennent pas à la pharmacie. Ils vont sur l'autre parking de la Vigneronne et ça salit moins. Voilà.
Je ne sais pas s'ils étaient malades, mais simplement, ce n'est pas nous qui nous sommes plaints.
Oui.
C'est simplement les administrés qui nous ont relayé l'information. Et en tant qu'élu, on a fait remonter l'information. Ce n'est pas moi, personnellement, que je me suis plaint. Il faut savoir qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé de cette zone.
Oui.
Qui n'était pas, je veux dire, satisfaisante. Voilà, c'est pas nous, personnellement.
Tout à fait. J'ai quand même rencontré une personne qui s'était plainte, donc je l'ai rencontrée.
Il y en a plusieurs.
Oui, mais bon, voilà. Moi, celle que j'ai vue, c'est une personne qui... Mais croyez-moi qu'on s'attache à la propreté. Mais si vous voulez aussi, puisqu'on parle de propreté, parce que vous n'êtes peut-être pas toujours au courant, et c'est peut-être un peu ma faute que je ne vous informe pas, c'est qu'au niveau des poubelles, nous faisons avec la COV un énorme travail. La police municipale, d'abord que je remercie, et Michel aussi que je remercie, je sais que tu m'épaules aussi avec la police municipale. Voyez ces photos. Alors parfois on dit les poubelles sont pleines. Ben, vous voyez peut-être pas bien, mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des palettes de chantier. Donc il faut savoir que la police municipale a attrapé cette personne-là. Cette personne-là a eu l'obligation dans l'immédiat de retirer ces palettes. Bon, quand on voit ça, ça paraît inadmissible, mais c'est vrai, je vous fais voir tout le monde. Voilà, autre chose. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur la propreté, on a fait du travail avec la COV, bien entendu. Vous voyez cette photo, ça se trouve à Grange-le-Pey. Je ne sais pas si vous savez, les poubelles étaient au bord de la route. Vous voyez, il y a des chiens, ce qui est dangereux parce que ça se situe en plein virage. Et les habitants de la Grange-le-Pey se plaignaient parce que lorsqu'ils avaient jeté leurs poubelles, ils ne pouvaient plus les jeter parce qu'elles étaient pleines. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a individualisé. Mais vous savez que pour individualiser, c'est pas du tout facile parce qu'il a fallu qu'on trouve, qu'on trouve un terrain avec un propriétaire pour qu'il nous donne l'autorisation. Puisque les camions de la COV sont assez importants, donc il faut une place de retournement. Il nous a fallu des dérogations, une autorisation, pardon. Donc ça y est, ça c'est fait. Ça, vous ne le verrez plus parce que la Grange-le-Pey est individualisée. Autre chose aussi, quand on dit souvent que les poubelles sont pleines, parfois c'est vrai, mais parfois c'est faux. Regardez ici ces poubelles. Vous voyez ici, vous avez les conteneurs. Ici, ils sont vides, mais qu'est-ce qu'on voit? Il faut savoir aussi que la municipale et Michel Innocenti m'aident beaucoup, c'est que nous avons envoyé 3 procès-verbaux. Et souvent on me dit, oh, Bédouin c'est ça, là, c'est les touristes. Ben, je suis désolé, c'est Jean de Bédouin. Bon, mais ben, c'est désolé. Mais il faut savoir que la police municipale intervient et nous travaillons là-dessus. Autre chose aussi, c'est que, bon, aussi là on voit dans cette ruelle, on voit que les poubelles ici, vous les voyez, elles sont vides, à part celle-là qui est pleine, mais ça c'est au mois d'août qui est un peu chargé. Mais regardez les autres poubelles, qu'est-ce qu'on a? On a du dépôt sauvage. Et ça, c'est pas facile d'y travailler. Vous en convenez, c'est pas facile, parce que s'il y avait une solution miracle, donnez-nous-la. Mais bon, c'est pour vous dire que cette municipalité, quand même, travaille sur la propreté, croyez-moi, avec la COV, cette commune s'investit. Je voudrais vous dire aussi qu'à Sainte-Colombe, je ne sais pas si vous avez vu les poubelles qu'il y avait devant la place où il y a la boulangerie, l'hôtel, nous avons déplacé ces poubelles. Pourquoi ? Parce qu'il y avait 6 conteneurs assez grands, il n'y en avait pas assez. Donc on en a rajouté 2, mais je trouvais qu'on perdait de la place de parking. Une jolie placette comme ça, il était mieux de mettre ces poubelles qui se trouvent sur notre parking, qui n'est pas goudronné, derrière le restaurant de la Colombe. Donc déjà, c'est une propreté, cette place est jolie et ces poubelles, je trouvais que c'était gâché. Deuxièmement, nous avons, au Fatigor, nous avons déplacé aussi les poubelles. Pourquoi ? Parce que ces poubelles sont au bord de la route et les passants qui passent, qui viennent du village ou autre, ou laissaient ces poubelles, et ceux des Fatigons qui avaient ces poubelles, ils allaient vider, c'était plein. Donc, nous avons déplacé ces conteneurs qui étaient au bord de la route. Nous avons fait pareil au Piémont. Au Piémont, vous ne verrez plus ces poubelles qui étaient en vue parce que le Piémont aussi a été individualisé. Donc, nous avons déplacé ces poubelles. Ne se voient pas. Les riverains, croyez-moi, ils sont contents parce que quand ils vont leurs poubelles, les poubelles sont vides. Hein. Voilà. Nous avons renforcé aussi, chez Lily et Paul, derrière le restaurant, nous avons renforcé les conteneurs, mis des conteneurs de 1000 litres, parce que s'il y avait, était trop petit. Donc on s'est rendu compte, nous avons renforcé. La place des Frères au Provence, nous avons renforcé aussi, nous avons mis des bacs de 1000 litres. Les Ardouins, pareil, les Ardouins, j'ai des photos, je peux vous faire voir, ça fait peur. Regardez ces photos, c'était pas envisageable, forcément... Donc là aussi, nous avons renforcé, et aujourd'hui, depuis on a renforcé le 19 juin, depuis aujourd'hui, on n'a plus de soucis de ce côté-là. Mais c'est vrai que c'est un travail de longue haleine, il faut y être, et vous voyez, c'était vraiment... Donc on ne travaille pas que sur Bédouin, on travaille aussi, comme je vous dis, les Fatigons, tout ça. Et puis, pour continuer sur la propreté, vous savez que nous avons mis en place deux poubelles spéciales pour ceux qui ont des chiens, parce que ça aussi, ça faisait partie de la saleté. Puis il faut penser aussi à nos employés qui ramassent ça, c'est pas agréable. Donc vous voyez, sur la propreté, on y travaille constamment. Et puis nous avons mis aussi, là, il y a quelques temps, une colonne à carton qui se trouve à la maternelle, je sais pas si vous savez, parce que c'est vrai que les restaurants qui se trouvent au niveau, à côté de la mairie, file, etc., qui sont là, pour eux c'est mieux, parce que tous les autres, les restaurants du haut, local, les restaurants du bas. Il y avait qu'ici le centre qui n'était pas bien équipé. Donc on a quand même beaucoup amélioré les poubelles qui se trouvent à côté des écoles parce que c'était des cartons qui étaient dans les poubelles et donc ça prenait de la place. Et donc là aussi on s'aperçoit, la COV aussi reconnaît que cette colonne à carton sert et est très efficace. Voilà pour ceux qui... Bon, rien n'est parfait, mais croyez-moi. Et vous savez, pour vous citer, il n'y a pas que la ville de Bédouin qui a des soucis, parce que j'ai la ville d'Aubignan, je l'ai sur moi, mais je vous le ferai voir si vous voulez. La ville d'Aubignan qui dit, bon, je cite le nom du maire ni de la commune, mais pas moins de 35 mètres cubes de dépôts sauvages sont ramassés chaque semaine. Vous voyez, il n'y a pas que notre commune, et je pense que nous, je touche du bois, on n'a pas trop à se peindre, parce que 35 mètres cubes par semaine, je ne sais pas si vous voyez que ça fait... Voilà. Et puis, il faut dire aussi que la mairie est efficace, parce que quand les gens téléphonent pour venir chercher un canapé, un fauteuil, la mairie met quand même à disposition, il faut quand même le savoir, ce qui évite des dépôts sauvages. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que sur la propreté, cette commune, quand même, elle s'investit. Elle ne s'arrêtera jamais à s'investir, parce que la propreté, c'est l'affaire de tous. Je vous remercie. Autre chose aussi, allez, excuse-moi, je reprends. Est-ce que chose aussi, je me suis aperçu que dans le village, il y avait une maison abandonnée. Vous les voyez, les volets sont ouverts. Et là, ben, c'est les pigeons qui se posent et qui font sur le trottoir. Alors, ce que j'ai oublié aussi pour les pigeons, on est en train, cette commune, de voir aussi si nous pouvons peut-être mettre un pigeonnier. Parce que vous savez que si on avait peut-être un pigeonnier, bon... On a copié ça sur la ville de Carpentras qui ont mis ça. Bon, apparemment, c'est pas très efficace, mais ils travaillent sur notre système. Parce que si on avait un pigeonnier, les pigeons iraient là, on pourrait enlever les œufs, ce qui fait qu'on aurait beaucoup moins de pigeons à Bédouin. Parce que vous savez que les pigeons, ça salit énormément. Le village salit, nos monuments sont salis. Donc, vous voyez, on anticipe et on s'inquiète. Mais merci de faire remonter quand il y a des endroits sales. Vous me contactez, croyez-moi. On fait nettoyer. Merci, excusez-moi, j'ai été un petit peu long, mais je ne sais pas si vous étiez au courant de tout ça et vous méritez de le savoir. Je vous remercie.
Alors, merci, n'était pas forcément au courant de tout,
bien entendu. Par contre, sur les dépôts sauvages, est-ce que la police tourne par rapport à ça? Les trois PV qu'on a adressés, c'est eux qui les ont
constatés? Oui, excusez-moi, comme je vous disais, trois procès-verbaux, il y a un mois et demi, sont partis des personnes bédouines. Autre chose, une personne aussi qui a été attrapée, qui jetait des végétaux, qui jetait du ciment dans la poubelle en face les infirmières. Un élu s'est fait insulter. Cette personne-là, on a pris le numéro de sa voiture et a été convoqué à la police municipale. C'est pour ça que je remercie Michel et la police municipale. Je pense qu'on va être obligé d'en arriver là. Peut-être qu'on n'est pas assez sévère à Bédouin. Enfin, à Bédouin. Sur la propreté, il y a du travail encore à faire. Mais il est vrai que c'est l'affaire de tout. C'est l'affaire de la COV, de la police municipale, de la mairie, de tout le monde. Je vous remercie.
Bien, mesdames, messieurs, merci pour toutes ces précisions et après toutes ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne soirée. Merci.